VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes ça et le plus avec Léo Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Les États-Unis ont dénoncé aujourd'hui les crimes de génocide perpétrés par le groupe État islamique contre la minorité de chrétiens, chiites et yézidis dans le sombre tableau annuel des libertés religieuses dans le monde dressé par le département d'État américain. Les détails avec Jacques Aristide.
La diplomatie américaine est catégorique. Les acteurs non étatiques comme les djihadistes du groupe État islamique et de Boko Haram continuent de se ranger parmi les plus monstrueux auteurs d'abus contre la liberté religieuse dans le monde, écrit-elle dans ce rapport dévoilé par le secrétaire d'État adjoint Anthony Blinken. L'emploi du terme de génocide, qui a des implications juridiques selon le droit américain, avait déjà été utilisé par le secrétaire d'État John Kerry et par des experts des Nations Unies pour qualifier les crimes perpétrés par ce groupe en Irak et en Syrie. Dans ce même panorama exhaustif sur l'état de la liberté religieuse en 2015, dans près de 200 pays, le département d'État s'en prend également à ses habituelles bêtes noires en matière de répression religieuse, Arabie Saoudite, Iran, Chine, Pakistan, Afghanistan, Soudan. Et comme les années précédentes, l'administration américaine s'alarme de la poussée de l'antisémitisme et de l'islamophobie en Europe, dans le contexte de la multiplication des attentats djihadistes et de la crise des migrants.
En Libye, les forces pro-gouvernementales libyennes disent avoir pris aujourd'hui le contrôle du campus universitaire à Sirte, resserrant encore plus l'étau autour du groupe État islamique EI dans cette ville du nord du pays. Sous la pression des forces gouvernementales d'Union nationale, le GNA, les djihadistes ont été contraints ce mercredi de fuir le campus et de se replier sur un secteur tout proche situé entre l'université et le complexe des salles de conférence Ouagadougou, où se trouve le centre de commandement de l'EI. La lutte contre Boko Haram au Sahel, les États-Unis ont promis 37 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux populations de la région du lac Tchad, touchées par l'insurrection djihadiste de Boko Haram, ont annoncé aujourd'hui des diplomates américains. Le gouvernement américain, à travers son agence d'aide au développement USAID, apportera plus de 37 millions de dollars en complément de l'aide humanitaire déjà en cours dans la région, souligne un communiqué de la mission diplomatique des États-Unis à Abuja, au Nigeria, précisant que cet argent servira particulièrement aux habitants de Difa dans le sud du Niger. L'enveloppe s'ajoute aux 318 millions de dollars déjà versés depuis 2015 par Washington pour apporter un soutien humanitaire dans la région. Au Mali, reprise des combats qui avaient commencé hier près de Kidal dans l'extrême nord-ouest du pays entre ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental Gatia. Les hostilités opposent des éléments de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad à dominante Touareg, aux forces du groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés Gatia, qui appartient au mouvement de la plateforme, une coalition pro-gouvernementale. Le point de la situation avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les affrontements Gatia-Sema ont repris ce mercredi 10 août à Tessik, une localité située à quelques 50 km de Kidal. Déjà, plusieurs véhicules sur la soixantaine que la CMA a engagés dans les combats ont été détruits ou pris. Le dernier renfort de la CMA a été défait par les Gatia. Les combattants de la CMA ont été obligés d'abandonner leurs véhicules. Les Gatia les a pourchassés jusqu'à l'entrée de Kidalville. Ces informations ne sont pas confirmées du côté des responsables de la CMA, qui disent que les combats sont toujours en cours et que leurs hommes maintiennent leur position. Par ailleurs, dans la région de Mopti, les corps sans vie de 4 militaires maliens ont été retrouvés dans le fleuve. C'est la suite au combat entre l'armée malienne et des assaillants. Cela vient conforter la thèse d'une noyade, parce que les combats se sont déroulés sur la route de Tenonkou, une zone inondée en cette période hivernale. Dans un communiqué, le gouvernement avait déclaré que 5 militaires maliens sont portés disparus, un autre blessé. Il a également ajouté que les assaillants ont récupéré 4 véhicules des forces armées maliennes et ont détruit un autre. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Soudan du Sud a rejeté ce mercredi une proposition des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer 4000 soldats supplémentaires sur son territoire, en soulignant qu'elle porte gravement atteinte à sa souveraineté et menace d'un retour au colonialisme. Les précisions de Nathalie Barge.
Le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Michael Makuei, a déclaré que la proposition donne aux Nations Unies la capacité de gouverner. Le texte appelle notamment un vote d'embargo sur les armes au Soudan du Sud si le secrétaire général Ban Ki-moon rapporte dans une période d'un mois que les autorités ont bloqué la force régionale. Le Conseil de sécurité pourrait voter vendredi sur la proposition. Après la reprise des combats le mois dernier, un ancien envoyé spécial américain avait suggéré que l'Union africaine et l'ONU administrent temporairement le pays. Des responsables onusiens disent que le gouvernement a commencé une répression en saisissant des dizaines de passeports de travailleurs de l'organisation et en imposant des restrictions sur les voyages et la livraison de l'aide alimentaire. La reprise de combats meurtriers le mois dernier dans la capitale Djouba, après l'accord de paix signé en août 2015, a suscité la crainte d'une nouvelle guerre civile et aggravé la crise humanitaire au Soudan du Sud.
La Zambie vote jeudi pour choisir son président dans un scrutin qui s'annonce très serré entre le chef de l'État sortant Edgar Lungu et son rival Hakainde Hichilema, après une campagne électorale émaillée d'incidents. Les précisions de Tatiana Mosso.
Monsieur Lungu, 59 ans, a été élu président en janvier 2015 pour achever le mandat de son prédécesseur Michael Sata, décédé brutalement en octobre 2014. Il avait battu d'une très courte majorité Hakainde Hichilema, qui avait qualifié le scrutin de simulacre et qui se présente jeudi pour la cinquième fois à la présidentielle. Le niveau de tension est plus élevé que par le passé. Des militants du parti de M. Lungu, le Front patriotique, ont attaqué lundi un bus de campagne du Parti uni pour le développement national de M. Hichilema. Des actes de violence sans précédent qui salissent le bilan historique d'élections pacifiques de la Zambie. Ces dernières semaines, les violences avaient conduit à la suspension de la campagne à Lusaka. Pendant cette campagne, le candidat Lungu a montré un visage plutôt radical, menaçant ses opposants à plusieurs reprises. Le vainqueur du scrutin de jeudi sera élu pour un mandat de 5 ans. Si aucun des deux candidats n'obtient plus de 50% des voix, un second tour sera alors organisé. L'enjeu de cette élection se joue autour de l'économie. L'an dernier, le président Lungu a même organisé une prière dans un stade implorant un redressement de l'économie.
La campagne présidentielle aux États-Unis maintenant, avec une nouvelle controverse autour de Donald Trump, l'aspirant républicain à la Maison-Blanche. La déclaration qu'il a faite en accusant la candidate démocrate Hillary Clinton de vouloir abolir le deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de porter des armes, ce qui a provoqué un véritable tollé. Ces propos ont en effet été interprétés par de nombreux médias et observatoires comme un appel à user de la violence pour stopper Mme Clinton ou des juges défavorables au second amendement, ce que dément avec énergie Donald Trump. Aux Jeux olympiques de Rio, le compteur toujours bloqué à 2 médailles d'argent pour les participants africains, les 2 médailles de la natation sud-africaine. En football féminin, il ne reste plus de représentants africains après l'élimination de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Les Sud-africaines portent la tête haute après un match nul 0-0 face au Brésil déjà qualifié. Les Zimbabwéennes, elles, s'en vont après une nouvelle défaite écrasante 6-1 face à l'Australie. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pas de miracle pour les Zimbabwéennes qui clôturent leurs Jeux Olympiques de Rio comme elles l'ont débuté par une lourde défaite 6-1 face à l'Australie. Cette première participation de Maktai Warriors du Zimbabwe au tournoi féminin de football des Jeux Olympiques a finalement tourné à la correctionnelle. 3 défaites en autant de matchs dans un groupe F qui n'était visiblement pas à leur taille. Déjà éliminés après le 6-1 leur infligé par l'Allemagne d'entrée, puis la défaite 3-1 face au Canada lors de la 2e journée, elles avaient pour seule mission de sauver l'honneur ce mardi contre l'Australie. Mais c'est finalement une nouvelle raclée qu'elles ont reçue. Seule consolation en dehors de l'expérience unique des JO pour les Maktai Warriors du Zimbabwe, le fait d'avoir inscrit à chacun de leurs 3 matchs le fameux but de l'honneur. Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et toujours concernant les Jeux de Rio, rappelons l'extraordinaire performance du nageur américain Michael Phelps, âgé de 31 ans, qui a conquis hier ses 24e et 25e médailles olympiques sur le 200 mètres papillon et le 4 x 200 mètres. Un exploit extraordinaire. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.